Bien, merci Monsieur le maire pour cette introduction. Donc bonsoir tout le monde. C'est sans doute la dernière réunion concernant le PLU. Nous en avons eu déjà quelques-unes depuis que ce travail a commencé. Parce qu'effectivement, nous arrivons au bout de l'exercice. Aujourd'hui, le PLU arrive dans une phase de finalisation. Alors, on va essayer de vous synthétiser ces années et ces dizaines de réunions de travail qui ont lieu soit en commission, soit avec les services d'administration, pour vous expliquer le consensus sur lequel on est arrivé au niveau du document. Alors, effectivement, comme l'expliquait Jean-Paul Constant, le PLU est un document qui est politique, certes, mais dans un cadre extrêmement précis. Alors, je vais commencer par vous rappeler de façon extrêmement simple le cadre juridique dans lequel les PLU s'organisent. Voilà. Un PLU, ça ne sort pas d'un chapeau comme ça. Voilà. Donc, le PLU vient s'emboîter dans une strate de normes juridiques qu'on appelle dans le jargon la hiérarchie des normes d'urbanisme. Et quand on part de tout en haut, ce sont les directives européennes qui ont, par exemple, qui ont instauré l'évaluation environnementale des PLU. Voilà. Donc ça, c'est arrivé directement de l'Europe. Et puis donc, en dessous de ces directives européennes, il y a toutes les lois nationales. Alors, le droit d'urbanisme a la particularité d'être très changeant. Il ne se passe pas 2 ans ou 3 ans sans qu'il y ait une réforme d'urbanisme. Mais parce qu'en fait, je crois que le monde évolue beaucoup et que l'urbanisme a besoin de s'adapter à l'évolution du monde. Voilà. Et puis, on a en dessous donc un certain nombre de documents, ce sont des documents plus thématiques. Alors, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais le plus important, c'est le SRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Donc, le SRADET, c'est une espèce de PLU hyper simplifié, bien évidemment, parce que là, on travaille à l'échelle de la région, donc je ne sais plus combien, il y a 20 ou 25 départements, je ne sais plus combien il y en a, qui, à l'échelle de la région, va organiser les grandes masses, les secteurs de développement économique, de protection des espaces naturels, etc., etc. Et puis après, quand on descend dans l'échelle territoriale, on a le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Donc, notre secteur a la particularité de ne pas être couvert par le SCOT, pas encore. C'est rare, il n'y a plus beaucoup de territoires en France. Alors le SCOT est en cours d'élaboration. Donc sur les 4 intercommunalités de la Haute-Val-de-Garve, le Pays du Mont-Blanc, le Chiffre, etc. Et puis donc, on arrive à notre PLU. Voilà. Donc pour notre PLU, il doit être conforme avec toutes ces directives qui sont supérieures à lui. Oui, je vais en parler, Donc, excusez-moi, je crois que j'ai oublié de passer à la diapo. Voilà. En fait, il y avait cette petite diapo qui est le support de ce que je suis en train d'expliquer. Excusez-moi, j'étais concentré sur mon propos et j'ai oublié la diapo. Voilà. Donc, on voit bien le cadre rouge qui est notre PLU, on a quand même beaucoup d'objectifs, de contraintes, d'orientations à prendre en compte, voilà, qui dépassent complètement le cadre de la commune. Quand, par exemple, le schéma régional d'aménagement, le SRADET, prévoit qu'à tel secteur, il y a des espaces de biodiversité à préserver et des corridors écologiques à prendre en compte, le PLU est obligé de l'intégrer. Enfin, il n'y a pas de choix. Voilà. Même si dans ce réservoir de biodiversité, la commune avait envie de faire un aménagement quelconque, elle ne peut pas. Donc on est quand même effectivement dans un document qui est élaboré au niveau de la commune, mais avec des contraintes qui parfois échappent complètement aux élus. Voilà. Et alors, la grande nouveauté qui mérite quand même qu'on s'arrête 5 minutes, c'est la loi climat et résilience de 2021, donc c'est une loi qui va avoir 2 ans bientôt, qui est une évolution réglementaire majeure, et quand je parle d'évolution, j'ai presque envie de dire une révolution, puisque donc la loi a fixé comme objectif qu'en 2050, donc dans 25 ans, agricole et naturelle. Alors c'est un peu barbare ce que je dis, mais en fait, si on regarde ce qui se passe, grosso modo, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à chaque fois qu'on urbanise, on a des besoins d'organisation pour faire des hôpitaux, des zones industrielles, des lotissements, etc. C'est systématiquement aménagé sur des terrains qui sont des terrains agricoles ou des terrains naturels. Voilà. Et c'est comme ça depuis des décennies. Et en fait, les scientifiques qui travaillent sur toutes les questions d'autonomie alimentaire, de biodiversité, etc., ont tiré la sonnette d'alarme déjà il y a des dizaines d'années en disant attention, on a un rythme d'artificialisation des sols qui est beaucoup trop important, hein, parce qu'en France, on est dans, à peu près hein, dans une artificialisation d'autour de 35 000, 40 000 hectares par an d'espaces agricoles et naturels qui, cumulés au fil du temps, hein, donc aujourd'hui, dans les services de l'État, on calcule ça de façon extrêmement précise par superposition de photos, interprétations, etc. Depuis les années 60, on est, je crois, à 25 ou 30 millions d'hectares agricoles qui ont disparu. Et donc les scientifiques ont dit, on constate un effondrement de la biodiversité. On a beaucoup parlé à la télé, dans les journaux, enfin, vous avez suivi tout ça. Et donc les scientifiques nous disent, un des facteurs de l'effondrement de la biodiversité, c'est la disparition des habitats. L'habitat naturel ou agricole. C'est pas le seul phénomène, bien sûr. Il y a le réchauffement climatique, il y a l'utilisation des pesticides, tout ce qu'on veut. Mais l'artificialisation des sols est une des causes de l'effondrement de la biodiversité. Et puis il y a d'autres scientifiques qui ont alerté en disant mais le sol a un pouvoir de captation du CO2. Voilà. Alors on apprend tous à l'école que les arbres capte le CO2, c'est exact, mais le sol capte aussi le CO2. Voilà. Donc plus on artificialise les sols, moins on a la capacité de stocker le CO2 qu'on rejette par nos activités domestiques et industrielles. Et puis, le dernier élément, qui est une prise de conscience relativement récente, c'est la question de l'autonomie alimentaire. Et ça devient très très préoccupant dans tous les pays du monde. Hein, donc c'est loin, on peut dire, c'est encore une spécificité française. Pas du tout. Tous les pays dans le monde sont en train de se poser cette question, y compris le Canada. Hein, on dit le Canada, ils ont de l'espace à revendre, ben non. Tous les pays, parce qu'en fait, on se rend compte que la diminution catastrophique des zones agricoles commence à peser sérieusement sur l'autonomie alimentaire, au niveau mondial et au niveau local des pays, etc. Par exemple, on a tous appris à l'école que la France est un grand pays producteur, exportateur agricole, etc., une grande puissance agricole. Et bien, depuis une dizaine d'années, la France n'est plus autonome alimentairement. Voilà, on importe. Alors, pour plein de raisons, hein, le libre-échange, le machin, etc., mais aussi, parce qu'on n'a plus de terrains agricoles, voilà, qui disparaissent. Voilà. Donc, toute cette prise de conscience des scientifiques est remontée au niveau politique, et donc l'Assemblée nationale a voté cette loi en 2021 pour dire, par rapport à tous les critères que j'évoque, il faut qu'on arrête d'urbaniser en artificialisant les sols. Alors, vous imaginez bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que la loi a prévu 25 ans pour faire ce travail, avec des étapes. Et, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on travaille à terme uniquement sur les espaces qui sont déjà urbanisés, qui sont déjà aménagés. Voilà. Ce que font déjà quasiment nos voisins suisses depuis les années 2010, parce qu'ils ont voté la loi qui s'appelle la LAC, la loi d'aménagement du territoire. Et finalement, nos voisins suisses, ils ont fait exactement le même constat. Et en 2010, ils ont voté cette LAC en disant, mais nous, ils ont fait le calcul en disant, on a besoin de combien de surface agricole pour assurer l'autosuffisance alimentaire du pays. Ils sont arrivés à un chiffre, je m'excuse, je l'ai oublié, hein, les X millions d'hectares agricoles. Et donc, ils l'ont inscrit dans la loi. C'est dans la loi. Il y a, je vous dis n'importe quoi, mettons 40 millions d'hectares agricoles, intouchables. Ça fait 15 ans qu'ils le font, nos voisins suisses. Hein. Les Chinois, on est sur le plater, bien sûr. Hein. Les Chinois font même comme ça. Ils ont vu que en 10 ans, les surfaces agricoles ont diminué de 3%. Alors, on dit que 3%, c'est pas beaucoup. Sauf qu'ils sont 1 milliard, combien 200 000, 300 millions. Donc 3% de disparition de surface agricole, c'est énorme. Voilà. Donc c'est vraiment un mouvement qui est mondial, qui est, de mon point de vue, irréversible, parce que j'entends souvent le réunion, oui, mais ça, c'est parce que en 2021, il y a un gouvernement qui va décider ça, mais dans 5 ans, ça peut changer, il y aura un autre gouvernement qui dira on fait les choses autrement. Alors je ne sais pas, je ne suis pas devin, hein, mais franchement, ça m'étonnerait. Vu le contexte global, ça m'étonnerait qu'on fasse marche arrière. Voilà. Donc il faut qu'on se mette dans le crâne, hein, que donc demain, à l'échelle d'une génération, à 25 ans, eh bien, on urbanisera uniquement dans des espaces qui sont déjà bâtis. Voilà. Et donc, il y a une feuille de route qui a été définie, et par, je voulais dire, la loi est applicable tout de suite. Elle est d'application immédiate, la loi. Hein, il y a des décrets qui sont sortis en 2022. Voilà, donc la loi est d'application immédiate. Donc aujourd'hui, n'importe quelle commune en France qui fait un PLU, cette loi s'applique. Voilà. Alors, tous les décrets ne sont pas sortis, il y a encore 2-3 discussions, enfin, comme ça, on va geler, c'est le détail. Hein. Donc aujourd'hui, quand on fait un PLU, on est obligé d'appliquer cette loi. Et la loi, elle s'est dit, mais il faut qu'on prévoie des sanctions, parce qu'on sait bien que s'il n'y a pas de sanctions, ben, les lois ne sont pas appliquées. Hein. Donc déjà, aujourd'hui, toutes les zones à urbaniser, dont ce qu'on appelle les zones AU dans les pays humains, qui ont plus de 6 ans, sont caduques. Donc, c'est terminé. Voilà. Donc aujourd'hui, dans n'importe quel pays de France, une zone AU qui a plus de 6 ans, eh bien, c'est fini, c'est terminé. Elle est considérée comme abandonnée, caduque, gelée. Donc la commission est sévère. Hein, vous comprenez bien que moi je suis le rapporteur des outils qu'on nous donne, nous les urbanistes, pour travailler. Hein. Après, chacun peut avoir son point de vue, y compris moi. Hein. Mais voilà, on va dire la sanction est d'application immédiate. Voilà. Et donc les PLU ont l'obligation, d'ici 2027, au 1er janvier 2027, pour être précis, d'être en conformité avec la loi climat. Et cette fameuse loi climat, elle dit, on doit diviser par deux, déjà dans cette première étape, hein, on doit diviser par deux le rythme d'artificialisation. Voilà. Donc, on prend la décennie de référence. Donc c'est les 10 ans qui ont précédé la loi, hein, donc 2011-2021. On regarde quelle a été la consommation foncière, 40 hectares, je veux dire, c'est au hasard, hein. Et bien dans le PLU, je ne peux pas mettre plus que la moitié de ce chiffre. Donc si je prends l'exemple de 40 hectares, dans mon PLU, je ne peux mettre que 20 hectares. Voilà. Alors, et ça c'est l'application tout de suite. Hein. Alors, il y a une toute petite, comme disait Jean-Paul Constant, cette fameuse zone grise, hein, cette petite marque d'appréciation, c'est que, en fait, dans la déclinaison de la loi, en premier, le fameux SRADET, donc le schéma régional, doit être mis en conformité avec la loi, donc ça, c'est en 2024. En deuxième temps, les SCOT, donc au niveau régional, c'est en 2026, et les PLU en 2027. Donc, en théorie, tant que le SRADET au niveau de la région et le SCOT au niveau local ne sont pas révisés, on a une toute petite marge de latitude. Quand je dis petite marge de latitude, on est d'accord, c'est quelques pourcents, hein, c'est pas je vais en profiter pour en remettre des côtés. Hein. Parce que, en fait, la loi elle dit que cette réduction de 50%, elle doit être territorialisée. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des territoires en France qui sont très dynamiques, on va pas dire Haute-Savoie, hein, et des territoires qui sont beaucoup moins dynamiques. Et que dans un même territoire, si on prend par exemple la vallée de l'Arve, il y a des secteurs qui sont très 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 dynamiques, les pays du Mont-Blanc, enfin, etc., d'autres qui le sont un peu moins. Voilà. Donc la loi qui va au niveau local, dans le SCOT, cette part de 50%, elle peut être répartie entre des communes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des communes qui vont réduire que de 30% leur consommation foncière. Parce qu'il y a des gros besoins, je ne sais pas moi, il y a une grosse industrie qui s'installe, qui a besoin de 15 hectares pour s'installer, ben peut-être qu'il y aura des systèmes de vastes communicants pour permettre à des projets très stratégiques pour le territoire de voir le jour. Voilà. Donc ça, c'est un débat qui a lieu au niveau du SCOT, pour voir comment, au niveau du territoire, est-ce que c'est 50% pour tout le monde, toutes les communes, communes rurales, communes touristiques, communes urbaines, ou est-ce qu'il y a des petites bascules d'un secteur par rapport à l'un ou l'autre, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quand même que c'est quelque chose de très nouveau, hein, puisque quand on a commencé le PLU avec l'équipe municipale, alors effectivement, Jean-Paul Constant a rappelé que le PLU a été commencé avant, avec l'équipe de M. Ducoum. Ce PLU n'a pas pu aboutir, parce qu'en fait, la commune ne s'est jamais mis d'accord avec les services de l'État sur le contenu du PLU. Voilà. Donc, M. Ducoum avait dit, puisque c'est comme ça, j'arrête le job, on ne peut pas discuter, j'arrête le job. Bon. Donc la nouvelle équipe élue en 2020 a refait le boulot, et avec une vision qui était différente, forcément, hein, de nouveaux élus, une nouvelle vision. Et donc aujourd'hui, on travaille depuis 3 ans sur ce nouveau PLU, et on va dire que on est à peu près en phase avec les services de l'État. Alors, vous avez commencé dans un PLU, des choses qui réglagent à la marge. On va dire sur les grandes lignes, les grandes orientations, on a une validation de principe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme ça fait longtemps que le PLU est sur la table, les élus ont décidé de le clore rapidement. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, on en est aux derniers ajustements. L'idée, c'est qu'il y a un conseil municipal qui soit fin juin ou début juillet, qui va voter donc l'arrêt du PLU. Donc l'arrêt du PLU, c'est la fin des études, hein, les études sont terminées, le dossier est fini. Et à partir de ce moment-là, on va dire à partir du début juillet, hein, le document va partir à la consultation des services de l'État, donc ça dure 3 mois, et après l'entrée publique. Donc ce qui veut dire que l'entrée publique, grosso modo, elle va démarrer autour des vacances de la Toussaint. Ça va être à peu près à ce moment-là. Bon, sachant que comme on est une commune touristique, on est obligé de faire l'enquête publique à cheval sur une zone de vacances. Voilà. Donc soit on est prêt pour les vacances de la Toussaint, si on coupe le coche, ça reporte à Noël. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas prêt à la Toussaint. Voilà, donc on arrive vraiment au bout de cet exercice. Donc ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est les plans de zonage, hein, puisque les dernières réunions, vous avez présenté eux qui arrivaient. Donc là, on a juste une petite diaporama pour vous rappeler en 3 mots, hein, les grandes orientations du PLD. Et après, on va regarder sur les documents de zonage ce qu'on a prévu, quelle est la philosophie, et puis quelques chiffres clés pour comprendre eh bien, comment ça se passe. Parce que vous avez compris qu'aujourd'hui, de toute façon, on est obligé d'enlever des surfaces constructibles. Donc on va vous montrer ce que ça représente comme surface. Et puis, il reste quand même, évidemment, des zones constructibles à l'intérieur des espaces urbains, ce qu'on appelle des zones creuses. Hein, quand j'ai un quartier avec des maisons et puis j'ai des parcelles qui sont nues, ben ces parcelles continueront à être constructibles. Alors, un petit rappel sur le PADD. Je te laisse présenter, Jean-Paul, peut-être. Mais alors, on a quelque chose de très simple, on ne va pas refaire la réunion qu'on avait il y a un an. Hein. C'est juste quelques